Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? D'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kairo.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Vous avez aimé? Vous vous êtes régalé? Ah ça, c'était super! Marcus Smith qui marque son essai, Marcus Smith qui fait des passes laser à la fine recelle, Marcus Smith qui se remet la mèche à endroit, Marcus Smith... Ah pardon, désolé, on me dit dans l'oreillette qu'on s'en fout de Marcus Smith, enfin on s'en fout jusqu'à ce que la France affronte l'Angleterre le samedi 19 mars pour le grand chelem dans le tournoi. Grand chelem, qui c'est qui a dit grand chelem ici? Oh là, nous n'en sommes pas encore là, avant cela les Bleus ont deux tests majeurs à remporter en Écosse et au Pays de Galles. Sur ce qu'ils viennent de montrer face à l'Irlande samedi, victoire 30 à 24, on se dit qu'ils ne vont faire qu'une bouchée des Écossais et des Gallois, mais comme on est des gens prudents, on dit « méfiat ». Une expression post-moderne que ne renierait pas Christelle Bonnet, bisous à elle. Méfiat, méfiat, car il y a deux ans, lancés comme des frelons vers un grand chelem, les Français avaient trébuché à Murrayfield pour finir deuxième du tournoi. Ce qui est rassurant pour cette équipe de France, c'est qu'elle a grandi, elle a maturé, elle a battu tout le monde ou presque depuis, y compris les Écossais chez eux. Alors on se dit que là, quand même, maintenant... Mais chut, faut pas le dire. Donc plutôt que de vous parler des trois bonnes raisons de croire au grand chelem, on a décidé de vous parler de trois bonnes raisons de croire à la réincarnation. Trois bonnes raisons de croire qu'après avoir laissé sa peau sur le terrain un samedi, vous pouvez être encore vivant le dimanche, et mieux que ça, être à nouveau sur le terrain le samedi d'après, et encore celui d'après. Les trois bonnes raisons en question s'appellent Grégory Aldrit, Anthony Jelonche et François Cross. Jelonche ou Jelon, Romain?
Jelon.
Jelon. Anthony Jelon. Trois humanoïdes faits d'un autre bois. Alors on aurait pu en choisir d'autres, hein, pour être honnête, mais on a décidé de faire un focus sur ces trois-là cette semaine. Pour parler de cette troisième ligne, j'ai convié trois éminents représentants de la rubrique rugby de l'équipe. Notre numéro 8 à nous, Romain Bergogne. Salut Romain.
Salut Clem.
Maxime Rollin, un flanqueur galopeur. Salut Max.
Salut.
Et au bout du fil, Alex Bardot, un flanqueur qui a deux épaules dans la boîte à gants, c'est pas pratique pour plaquer. Salut Alex.
Qui a jamais plaqué de sa vie. Bonjour.
Voilà, les présentations sont faites, vous connaissez le programme. Alors flexion, liée, jeu. Dimanche dans le journal de l'équipe et dès samedi soir sur le numérique, car vous travaillez vite et bien, messieurs, vous avez décidé d'accorder à 5 joueurs la note de 8, qui était la note maximale sur ce match. Alors parmi ces 5 joueurs, il y avait l'ailier gauche Gabin Villière, bon, qui fait un drôle de troisième ligne aussi celui-là. Il y avait le talonneur Julien Marchand et il y avait l'intégralité de la troisième ligne, Cross, Aldrit, Jelonche. Alex, c'est toi qui notais la troisième ligne, c'est quoi le truc? T'avais un prix gros sur la note de 8?
Mais je me suis posé la question et je sais que je t'en ai parlé d'ailleurs. Je t'ai dit, c'est moi ou je les ai surnotés ou c'est vraiment qu'ils ont été énormes? Et t'as validé, donc...
Donc on y allait.
Sur 8. Non, mais c'était... J'étais pas forcément parti sur ça à un moment. En fait, j'avais trouvé leur match énorme, notamment celui de Jelonche au départ. Surtout celui de Jelonche. Puis après, Aldrit, quand on regardait tous les mètres qu'il avait gagnés dans un match qui s'était autant joué sur, dans un petit périmètre, ça voulait dire quelque chose. Et puis Cross, il y a quand même deux actions décisives en défense en deuxième mi-temps, deux ballons piqués qui sont importants, notamment la touche à 5 mètres de la ligne française à un moment où il y avait un score très serré. Je crois qu'il n'y avait plus qu'un point d'écart à ce moment-là. Ou trois points. Et donc, ça me semblait finalement impossible de pas mettre 8.
Il a surnoté, Max, ou pas?
Non, je secoue la tête parce que le score était de 27-21.
Oui, je crois que c'est sur le 50-22 trouvé par Burn, le deuxième ligne.
Il y avait un point d'écart, c'est sur le contre-ruck.
Voilà, c'est ça.
Sur le contre-ruck, c'est 10 minutes plus tôt.
Enfin bref, ouais, c'était une action décisive malgré tout.
En tout cas, c'était une action décisive parce que si on prenait un essai sur ballon porté, comme ça avait été le cas quelques instants plus tôt, l'Irlande repassait devant et on ne sait pas ce qui serait advenu.
Romain, t'as trouvé que cette troisième ligne avait été...
En fait, ils ont fait... C'est vrai, quand on note, on a tendance à jouer sur 4 minutes. Et c'est vrai qu'en début de deuxième mi-temps, si on veut pinailler, ils ont un peu, comme le reste de l'équipe d'ailleurs, eu un petit coup de mou. On sent que physiquement, ils ont un peu flanché. Il y a eu un peu de relâchement sur les soutiens, sur la dureté des contacts. Mais ça a duré 10 minutes. Bon, ça a suffi à mettre 14 points. Enfin, ça a suffi à l'Irlande pour passer 14 points. Mais sur la fin de match, effectivement, on voit Jelonche qui se démultiplie encore. Enfin, surtout, ce qui est impressionnant sur ce match-là des trois, c'est que les trois, physiquement, alors qu'on pensait qu'ils étaient un peu en train de plonger en début de deuxième période, ont eu cette espèce de regain et retrouvé la force dans leur jeu digne de leur première mi-temps. Et c'est ce qui rend la performance d'ensemble encore plus impressionnante, parce que si je ne me trompe pas, ils ont joué au moins 70 minutes chacun. Il n'y en a qu'un qui est sorti.
Non, il n'y en a qu'un qui est sorti. C'est Cross à la 73e.
Voilà,
c'est tard.
Donc, bon, les trois se sont quasiment farcis l'intégralité du match. Et vu la densité du match, bon, il fallait y être. Et c'est vrai que dans ce registre-là, dense, combattant et physique, et sur 73 minutes, du coup, et 80 pour Aldrit et Jelonche, on est dans l'ordre de la performance.
Surnaturelle.
Ouais. C'est-à-dire qu'on.
Animal.
On ne sait même pas dans quel état ils sortent du terrain. Parce que, bon, moi qui note le 5 de devant, je me suis posé la question déjà à la mi-temps pour Marchand. Mais bon, Marchand, l'avantage, c'est qu'il sort à la 50e ou 55e. Alors qu'eux, ils ont fait ça pendant tout le match. Donc, c'est, oui, dans ce registre-là, physique et dense, c'était colossal.
Tu poses la question et c'est Max qui va pouvoir y répondre. Parce que tu dis, on ne sait pas dans quel état ils sortent du terrain. Max, toi, tu as parlé à Anthony Jelonche hier. Tu l'as eu au téléphone, dimanche en début d'après-midi.
Il était un peu fatigué, il faut l'avouer. Il avait une petite voix.
C'était le match ou la soirée qui a suivi?
Non, je pense que c'était le match, puisqu'il m'a dit que la soirée n'avait pas été si festif que ça. Non, tu sentais que le combat avait été rude. Lui-même le dit. Hein. Mm-hmm. Il place cette rencontre face aux Irlandais dans le top 3 des matchs les plus difficiles au niveau du combat, de l'intensité et physiquement qu'il ait eu à jouer. Donc ça prouve bien que c'était quelque chose. Et même on sentait, il avait une petite voix comme un lendemain de, pas de soirée justement, mais un lendemain où on n'a pas peut-être un peu moins bien dormi et où on est complètement KO, quoi. Je sais pas s'il y en a certains qui font des marathons comme moi chaque week-end, ils doivent comprendre ce que je veux dire.
On avait fait un gros focus, Alex, avant ce match sur la troisième ligne irlandaise, Conan, Van der Flier, Doris, en vantant les mérites de ce trio-là. Je ne vais pas dire que les Français les ont bouffés, ce serait sans doute exagéré, mais en tout cas...
Philippe Benetton, il l'a dit, ouais. Que la troisième ligne française avait éteint la troisième ligne irlandaise dont on avait beaucoup parlé. Donc, lui, il a été jusque-là.
C'est ça qui est intéressant avec le match de cette troisième ligne-là. C'est pas non plus totalement une découverte, mais c'est quand l'Irlande, à travers si on regarde les matchs des dernières années, l'Irlande est un adversaire qui tient tellement le ballon qu'elle crée quelque part des stats de plaquage énormes chez l'adversaire, notamment chez les troisièmes lignes.
On se souvient d'un Guirado à 32 plaquages de mémoire il y a quelques années.
Oui, il y avait eu des stats autour de 20 plaquages assez énormes. Mais alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des stats élevées, mais c'est que c'est l'équipe de France. En fait, et c'est cette troisième ligne particulièrement qui a dicté l'intensité. C'est-à-dire qu'au-delà du nombre de plaquages, ce qui est intéressant, c'est et du travail en général, ce qui est intéressant, c'est comment ils ont dominé physiquement leur adversaire direct, la troisième ligne, et pas que ça. Jelonche a eu un nombre de plaquages nets, pas forcément des plaquages hauts, très spectaculaires, comme on a vu avec Antonio sur Furlong à un moment, mais des plaquages nets bas qui stoppaient tout de suite l'attaquant irlandais. Aldrit, lui, ballon en main, a beaucoup avancé dans des petits espaces. Cross aussi a eu des actions impactantes au niveau physique. Et voilà, c'est quand on a, avec cette troisième ligne qui prend le pas en fait sur l'adversaire et qui arrive à imposer son intensité et non pas à juste s'opposer à l'intensité mise par l'adversaire, c'est énorme en fait. C'est dans un match comme ça en plus. Avec cette configuration-là, c'est essentiel.
On s'était un petit peu inquiété. Enfin, moi, le premier, je m'étais, pour tout révéler à nos auditeurs, je m'étais demandé avant le match.
Tu t'inquiètes beaucoup, quand même.
Ouais, c'est vrai que je suis de nature très inquiète. Non, mais je m'étais demandé avant le match si il fallait pas faire un papier pour poser des questions sur la touche, puisque en enlevant Cretin, on perdait un joueur aérien avec cette troisième ligne, on va dire, d'un peu plus rase-moquette.
C'était une question que c'était posée aussi, parce que cette troisième ligne, c'est la deuxième fois qu'elle joue ensemble avec la Nouvelle-Zélande. Donc ça leur fait quand même deux bonnes références déjà sur le CV. Et on s'était aussi posé la question à l'époque, parce que c'est vrai que du coup, avec cette configuration-là et avec Woki en deuxième ligne, ça leur faisait... On se disait, en termes de jump, en touche, ça limitait un peu les options, parce qu'il y avait du coup le seul, on voyait le seul Woki comme voltigeur. Et en fait, il s'avère que Kroos est aussi un excellent sauteur en touche, qu'on voit maintenant, contrairement, on l'a vu, il a eu 3 ballons, c'est Paul Willemse qui saute. Donc finalement, parce qu'ils ont quand même passé 2 tests majeurs en touche contre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande, et on se rend compte que finalement, c'est pas du tout préjudiciable au secteur de la touche. Ça peut même être profitable, puisqu'on parle de cette action où le ballon est volé par Kroos à 10 minutes de la fin, à 5 mètres de la ligne. Donc même sur le contre, finalement, c'est efficace, sachant qu'en plus, il y a Cretin qui est sur le banc et qui, lui, du coup, à ce rôle-là, éventuel de capitaine de touche, il faut l'assumer.
Et si jamais ça tourne mal aussi.
Sur les 10-15 dernières minutes à la fin, ouais. Et si Wookie sort, parce que Wookie est sorti à la 53e, et Flamand a pris son relais en touche aussi. Donc finalement, sur les 80 minutes, entre Wookie, Kroos, Flamand,
Willemse
et Cretin, enfin, et du coup, Flamand et Cretin sur le banc aussi, on se rend compte que le combo en touche est très solide, quoi, finalement.
Fabien Galthié qui disait ça, qu'il fallait trouver cet équilibre et que c'était parfois pas si évident. Mais que voilà, c'était une question d'équilibre entre les sauteurs, les ferrailleurs, les coureurs. Et je crois qu'il a employé le mot pari et que le pari avait marché contre la Nouvelle-Zélande, que le pari était retenté contre l'Irlande. Ça a fonctionné. Alors, ça ne fonctionnera peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas, faut en profiter quand ça fonctionne. Il avait employé le mot pari comme quoi c'est vraiment c'est presque impossible de trouver l'équilibre et que finalement c'est en fonction de la rencontre que parfois ça paie ou pas.
Alors Romain, tu l'as dit, hein, c'était une de mes questions, c'est leur deuxième association, deux associations, deux victoires face à la Nouvelle-Zélande et à l'Irlande. Je vais vous poser une question qui est très simple et très compliquée à la fois. Est-ce que Fabien Galthié et le staff des Bleus ont trouvé leur troisième ligne type ? Alex, peut-être. Démerde-toi avec ça.
A priori, non, puisque ils ont entre ces deux matchs, il y a eu ce match contre l'Italie pour lequel ils n'ont pas aligné cette troisième ligne-là. Donc ça veut dire que un, ils n'ont pas forcément de troisième ligne type, et que deux, ils se laissent plein d'options ouvertes. Et par ailleurs, il y a un dernier élément à prendre en compte, c'est qu'il y a Charles Olivon qui est à l'infirmerie en ce moment et qui reviendra un jour a priori. Je dis a priori parce que on ne sait pas encore s'il retrouvera son niveau, mais en tout cas, le staff de l'équipe de France semble toujours compter sur lui. Je ne sais plus s'il faut raisonner en termes de troisième ligne type. Mm. Je crois que celle-là, on sait que c'est une troisième ligne possible et très bonne, et capable d'être très bonne à ce niveau-là. Après, Max parlait d'équilibre et effectivement, se posera à nouveau la question de l'équilibre sur la touche, mais peut-être aussi de l'équilibre sur le jeu offensif. C'est une équipe, cette troisième ligne-là, si on devait, c'est pas apporter une critique, mais apporter un regard un peu plus...
Un bémol, nuancé.
Un bémol, voilà, c'est de dire qu'il lui manque peut-être à un moment un joueur de rupture comme peut l'être Charles Olivon, qui, lors de son premier tournoi, avait marqué beaucoup d'essais en se portant vite au soutien. Alors, Jelonche, là-dessus, a des qualités évidentes, qu'il a encore montré un moment sur un soutien intérieur à Penaud en deuxième mi-temps, je crois. Il a aussi des mains et pas mal de vitesse. Mais Olivon semble aujourd'hui garder une... Enfin, le Olivon d'avant sa blessure avait peut-être un temps d'avance en termes de vitesse et de capacité technique. Et en plus, lui ajoute un élément, Charles Olivon, c'est que c'est un vrai sauteur.
Non, mais pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Romain, quand on a préparé le podcast ce matin, tu remarquais qu'il y avait peut-être aussi moins de redistribution avec un troisième ligne dans le couloir à la Olivon, justement, ouais. Avec cette troisième ligne-là, même si on a vu, j'ai en mémoire Kroos à un moment.
C'est vrai que Kroos, c'est ce que disait Fabien Galthié après le match, a un peu ce rôle de lien avant trois quarts, qui est super important dans une équipe. Mais c'est vrai qu'on a moins, comme disait Alex, de troisième ligne franchisseur et galopeur, et du coup plus des joueurs typiques type axe du terrain, on va dire, avec ces trois là. Mais ce que je disais ça ce matin en pensant, parce qu'on parlait à ce moment-là de Gabin Villière, en se disant en fait finalement, vu qu'il y a Gabin Villière sur une aile, est-ce qu'on a besoin d'avoir un troisième ligne dans un couloir, vu qu'il s'occupera de tout si jamais il y a une galère ou un retard au soutien. Mais après, sur la question de ces trois-là, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a deux qui aujourd'hui... Enfin, il y a Aldrit dans cette forme-là qui, pour moi, me semble indispensable et incontestable en numéro 8, parce que bon, on l'a vu avoir des coups de mou, on a vu ce que ça donnait dans son jeu, et là, on voit que quand il est en pleine forme, il est à ce poste-là.
Sachant que c'est un poste quand même moins que les flanqueurs, enfin où la concurrence est moindre quand même.
Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais à un moment, le staff quand même, c'était si je me trompe pas, avait quand même mis contre l'Argentine Jelonche en 8.
On a eu Jelonch en 8, voilà, on a eu Makalu en 8, on a eu Tolofoa en 8. Là, je regarde un peu les différentes troisièmes lignes qui ont été testées. Bon,
mais cet Aldrit-là, en fait, est incontestable. Ouais. Et ce Cross-là aussi, pour moi, l'est aussi. Enfin, on a eu un petit doute sur lui parce qu'il avait disparu un peu avec sa blessure au pied qui avait pris un peu plus de temps que prévu pour son retour. Et donc, c'est vrai qu'après, la question peut se poser entre un Olivon et un Jelonch. Mais vu les performances de Jelonch aussi, on se rend compte que finalement, Olivon manque pas tant que ça, donc la question se posera quand Olivon reviendra, évidemment. Mais sur ces deux matchs-là, ce qui est marquant quand ils ont joué tous les deux, c'est que c'est pas ces deux matchs où il y en a un, ça n'empêche pas l'équipe de France d'envoyer du jeu, en fait. Contre la Nouvelle-Zélande, même avec cette troisième ligne-là, quand il a fallu accélérer, on a pu envoyer du jeu parce qu'on avait aussi un Wookie qui pouvait suivre au soutien, parce que finalement, Wookie est toujours là.
Et
en termes de flanqueur de rupture, même si c'est pas son numéro dans le dos, il est là. On a des Marchands et des Bailly qui sont quand même des mobilettes aussi pour suivre ces mouvements-là. Donc, en termes d'équilibre, finalement, les questions qu'on se posait avant le match contre la Nouvelle-Zélande, qu'on a pu se reposer la semaine dernière, sont quand même bien. C'est des équations qui sont quand même bien résolu, parce qu'en pratique, ça a quand même donné des résultats assez probants, je trouve.
Et si on en croit Laurent Labitte, l'entraîneur de l'attaque, il a quand même dit avant le début du tournoi qu'on allait arrêter les expérimentations. Ça veut dire, selon moi, que cette troisième ligne, elle peut durer. Aussi, parce que vous parlez beaucoup d'Olivon, mais alors pour l'instant, Olivon, il a pas remis les pieds sur le terrain. On est quand même à moins de 2 ans de la Coupe du Monde, si je me trompe pas. Si l'équipe de France gagne le tournoi, mieux fait le grand chelem, il va falloir qu'Olivon quand même y retrouve un certain niveau pour réintégrer cette équipe. Alors certes, par rapport à son vécu et par rapport à son statut de capitaine, on peut penser que ce sera un peu plus facile de le réintégrer.
Et pour toi, c'est pas gagné d'avance.
Pour moi, voilà, c'est pas gagné d'avance. Hein. Dans le passé, j'ai pas un exemple comme ça qui me revient tout de suite en tête. Mais des joueurs qui se sont malheureusement blessés à 2 ans de la Coupe du Monde, compensés à incontournables, et qui finalement ne font pas la Coupe du Monde parce qu'ils sont jamais revenus à leur niveau ou parce que le concurrent est plus fort. Alors aujourd'hui, je suis d'accord avec Romain, Aldrit, il semble incontournable, Cross à ce niveau-là aussi. Alors oui, il va rester une place, mais bon, quand on voit Jelonch jouer comme ça, je vois pas comment on va le sortir. Je pense que Cretin face à l'Italie, c'était aussi une façon de le récompenser parce qu'il est dans le groupe depuis un moment et de peut-être pas cramer Cross aussi, qui n'avait pas trop joué avec le Stade Toulousain, avec toutes les histoires de Covid, et peut-être de garder un petit peu de fraîcheur au sein de cette troisième ligne et de ne pas la faire trop enchaîner, en sachant que derrière, elle allait sûrement jouer l'intégralité du tournoi. Donc moi, j'ai plutôt tendance à penser que cette troisième ligne et même ce 15 de départ va continuer pendant un petit moment.
On s'éloigne et du sujet, mais
on s'éloigne du sujet,
mais c'est intéressant. Moefana y compris, alors.
Non, peut-être la seule dernière interrogation. Il faut pas oublier aussi que Wookie joue en 4. Mais si Wookie venait à revenir en troisième ligne,
ça rajouterait de la concurrence.
De la concurrence à la concurrence. Et vu le niveau de Wookie, c'est bien pour ça qu'Olivon, pour l'instant, il est très très loin selon moi.
Rappelons quand même que le mandat de Fabien Galthié avait commencé avec une troisième ligne Olivon, Aldrit, Cross, alignée 6 fois consécutivement.
Mais cette troisième ligne aurait sans doute joué ce tournoi si Olivon n'était pas blessé, je pense.
Toi, Alex, tu penses que...
Ce qui a ouvert le jeu, c'est sûr, c'est la blessure d'Olivon. La blessure d'Olivon, elle a ouvert le jeu parce qu'elle a, non seulement elle a enlevé un troisième ligne, mais en plus, elle a enlevé le capitaine de touche. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il a fallu intégrer un capitaine de touche. Ils l'ont trouvé en la personne de Wookie et ils ont déplacé Wookie. Enfin, il y a eu tout un jeu créé par la blessure d'Olivon. Peut-être qu'effectivement, comme dit Maxime, sans la blessure d'Olivon, ni Wookie ni Jelonch aujourd'hui auraient eu toutes ces opportunités.
Après, je me permets d'ajouter aussi la Coupe d'automne des Nations et la tournée en Australie pour le cas Jelonch, qui ne faisait pas forcément partie du groupe premium au moment du début du mandat de Galthié, et qui a profité de la Coupe d'automne, notamment d'un match assez phénoménal en Angleterre en finale de la Coupe d'automne. Et la tournée en Australie où il se farcit 3 fois 80 minutes en 10 jours.
Et où il est capitaine.
En tant que capitaine.
En plus.
Où il tient quand même largement la baraque sur ces 3 matchs-là, c'est même peu de le dire. Mm-hmm. Qui lui a permis lui aussi de revenir plus que dans les radars et de faire poser la question au staff de son intégration en tant que titulaire.
Tu l'as coupé la chic. Tu voulais dire quoi d'autre, Alex?
Non, j'avais rien d'autre à dire. Je suis d'accord avec ça.
Alors, il est sans doute trop tôt et c'est peut-être une question qui va vous paraître déplacée, mais est-ce que vu la forme de ce 15 de France, vu l'avenir brillant à court et moyen terme qu'on lui promet, est-ce que c'est une troisième ligne qui peut être l'équivalent de Magne, Betsen, Harry Nordoki, du Sautoir, Bonner, Harry Nordoki, c'est ces troisième lignes-là qui ont marqué l'histoire du 15 de France, ou parce que, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, le retour d'Olivon, etc., etc., on risque de pas l'avoir dans cette durée-là, ou en tout cas dans cette stabilité-là?
C'est difficile à dire, hein, parce que les joueurs que tu as cités, c'est des joueurs qui ont tous plus de 50 sélections, je crois.
Qui ont beaucoup, beaucoup d'associations et communes. Quoi.
C'est beaucoup d'associations communes. Maintenant, encore une fois, s'il n'y a pas de blessure, je pense qu'on peut arriver à ce niveau-là. Oui, parce que les joueurs qui la composent, Aldrit, Kroos, ce sont des joueurs plus. Qui sera le troisième larron, je sais pas. Anthony Jelonche, c'est quand même, il a été champion de France. Enfin, c'est pas n'importe qui. Et comme le dit Romain, il a su saisir sa chance. Donc, moi, je pense que c'est possible. Et je vais paraphraser Philippe Benetton que j'ai eu après le match samedi, qui selon lui, s'y connaît un petit peu en troisième ligne, puisque lui, il a plus de 50 sélections aussi, 59 exactement, je crois. Il m'a dit que pour lui, François Kroos, c'était un peu le Serge Betsen de l'époque ou le Thierry du Sautoir de l'époque d'après. C'est-à-dire que c'est le joueur qu'on met en premier sur la feuille de match et on construit l'équipe autour de lui. On peut penser que cette troisième
si
ligne a cet avenir-là, en tout cas.
Alex ?
Moi, j'ai un doute. Je ne sais pas s'il faut se projeter, en fait. Je ne sais pas s'il faut se projeter avec cette troisième ligne, parce que je pense qu'il y a deux choses qui me font penser ça. C'est que le staff a l'envie, et il l'a prouvé contre l'Italie, de s'adapter aux adversaires, et qu'il y a aussi la question du retour d'Olivon. Et puis, enfin, il y a un autre paramètre, c'est que ces trois-là, ils sont atypiques quelque part, parce que là, on a cité des troisièmes lignes, les troisièmes lignes que tu citais, Clément, c'est des troisièmes lignes avec un sauteur à chaque fois. Au moins un sauteur. Hein. La troisième ligne de 2011, elle avait même deux sauteurs, avec Harry Nordoki
et Bonner.
Et Bonner. Là, il n'y en a pas des spécialistes. Ça veut dire qu'ils sont dépendants de la présence d'un pur spécialiste de la touche en deuxième ligne. Si Woki se blesse demain, cette troisième ligne sera peut-être remise en cause.
Oui, mais si Woki se blesse demain, qui sera le deuxième ligne qui le remplacera? Sûrement un sauteur.
Si c'est Leroux, pas forcément.
Pas forcément. Si c'est Leroux, pas forcément. Si c'est Flamand, je ne sais pas si aujourd'hui le staff de l'équipe de France fait une confiance totale en Thibaut Flamand comme capitaine de touche éventuelle, sachant que c'est un jeune joueur au niveau international. Donc voilà, pour tous ces paramètres-là, je ne sais pas s'il faut se projeter avec cette troisième ligne. Ce qui est sûr, c'est que c'est une troisième ligne fiable et plus que ça, en fait, aujourd'hui, à l'instant T. Et il n'y a pas de doute à avoir sur ses qualités.
Et il n'y a pas de risque quand tu l'alignes, quoi.
Bah, si on regarde le calendrier de l'équipe de France, de toute façon, on sait par exemple qu'il va y avoir l'Afrique du Sud en novembre.
Ouais.
Donc on verra à ce moment-là ce qui se passe. En tout cas, on sait que pour ce genre de match-là...
Peter-Steph Dutoit face à Anthony Jelon.
Si tous les joueurs sont rétablis, en forme et qu'il n'y a pas de soucis... Enfin, pour affronter par exemple la future en novembre, on sait qu'on a avec ces trois-là le matos pour y aller, quoi. Il y a pas de.
C'est à la place de Willemse, je m'inquiéterais parce qu'ils vont vouloir faire monter un de ces mecs-là en deuxième ligne.
Ouais. Ouais, enfin bon, Willemse en termes de férocité, je pense que si tu lui fais manquer le match contre les Springboks, à mon avis, tu l'as perdu, je pense.
Mais c'est vrai que on a quand même le sentiment que c'est une troisième ligne qui est un petit peu dépendante d'adaptation stratégique ou de choix effectivement faits ailleurs et que.
Bien sûr. Mais après, la question, c'est est-ce que le staff a fait cette troisième ligne-là en faisant monter Woki ou a d'abord fait monter Woki en se disant... On avait l'impression, dans mes souvenirs d'avant la conférence de presse de Nouvelle-Zélande, qu'ils étaient quand même en recherche d'équilibre et qu'ils avaient mis Woki en deuxième ligne et qu'ils voulaient voir un peu ce que ça donnait avec cette troisième ligne-là, si ça pouvait matcher. Bon, la réponse est oui. Donc je pense que c'était d'abord lié au fait de vouloir faire monter Woki en deuxième ligne. Bon, après, ils savaient qu'ils avaient ces trois-là aussi derrière pour tenir la troisième ligne. Mais effectivement, la question se posera un jour de savoir si, en cas de réadaptation stratégique ou selon le profil de l'adversaire, comme effectivement on l'a vu contre l'Italie, où il fallait peut-être un peu plus galoper, un peu plus faire courir l'adversaire. Bon, malheureusement, il a plu, donc ça a été un peu plombé, mais le profil des joueurs en troisième ligne ne peut pas changer.
Mais c'est les performances qui vont dicter ça aussi. Parce que là, franchement, vous sortez qui en troisième ligne? C'est compliqué, même si vous parlez de stratégie, de tout ce que vous voulez. Donc là,
ouais, mais Max, ça c'est le cas depuis le début. Est-ce qu'il y a une troisième ligne de tout cela, plus Olivon, plus Cretin, qui a été décevant sur un ou plusieurs matchs depuis le début de la Galtier.
Il y en a qui ont été moyens. Cretin a déjà été moyen, c'est peut-être la raison pour laquelle il est plutôt remplaçant et parfois il a même été hors groupe. Aujourd'hui, après un match contre l'Irlande, si comme vous le dites depuis le début, on va aller gagner en Écosse et au Pays de Galles.
Qui a dit ça ? Moi, j'ai pas dit ça. Hein.
Ce que je ne crois pas, et je le répète encore une fois, je pense qu'on perdra un des deux matchs. Donc, cette troisième ligne fait des dégâts et on lui met 8 à chaque match. Et d'un coup, contre l'Angleterre, pour je sais pas quelle raison, on va changer ça parce qu'il faudra un sauteur, un truc en plus. Moi, j'y crois pas personnellement.
Ben, ce staff a déjà prouvé qu'il était capable de changer ses plans. Grégory Aldrit était remplaçant avant le match contre
l'Argentine. Parce qu'il allait moins bien.
Il n'allait pas moins bien avec l'équipe de France. Il était dans un moment en club un peu moins bien.
Mais il allait forcément pas avec l'équipe de France. Ça faisait plus de 6 mois qu'il n'avait pas joué. Il n'avait pas fait la tournée. Son dernier match, ça remontait au tournoi.
Donc, oui, bien sûr. Mais c'est tout ça pour te dire que je pense que ce staff-là n'aura pas peur à un moment, soit de faire des choix tactiques, soit de faire des choix à un moment sur un petit écart de forme, mais qui sera peut-être un écart de 1%, et ce sera aux dépens de joueurs qui
moi, en tout cas, personnellement, aujourd'hui, avec cette troisième ligne-là, je ne m'amuserai pas à intégrer un Cretin qui, je pense, est un petit peu en dessous de ces trois-là. S'ils l'ont intégré face à l'Italie, c'est qu'il y a une raison, c'est que l'adversaire était un peu plus faible et qu'il n'y avait pas de risque.
Après, on rappelle...
Je pense que contre... un adversaire comme l'Angleterre sur une finale de tournoi, ils ne prendront pas le risque de mettre un Cretin par rapport à la stratégie. Quoi. Voilà.
Après, on rappelle une donnée qu'on n'a peut-être pas encore évoquée, qui avait été le leitmotiv de la tournée de novembre, c'était la volonté aussi d'avoir un banc très costaud pour finir les matchs. Ça peut peut-être aussi être quelque chose à prendre en compte dans la composition du banc.
Mais regardez, Cretin, il est rentré très tard. Ouais. Même Dupont est sorti avant que Cretin rentre, ce qui arrive jamais.
Ok, messieurs, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur ce thème de la troisième ligne ? Non ? Romain, tu penses qu'on va faire le grand chelem ? Faut pas le dire.
Non.
Non ?
D'accord. Non, non. Je suis comme Max. Je pense qu'il y en a un des deux qui s'annonce très piégeux à l'extérieur. Mais moi, je suis plus inquiet sur Galles que sur l'Écosse maintenant.
Moi, je reste sur ce que j'ai dit dès le début. Hein. Je vais pas changer comme ça en cours de route. Je me méfie quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'Écosse. Et je me dis même que si on venait à gagner les deux à l'extérieur, j'aurais encore plus peur de l'Angleterre. Ah. Voilà.
Quel oiseau de mauvais oiseau.
Et même si on bat l'Angleterre, on peut perdre au Japon, après, rappelez-vous.
Ouais, mais on aura fait le grand chelem, hein, donc...
Alex, c'est tout bon pour toi ?
C'est tout bon.
Allez, et ben merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était Crunch, le podcast de la rédaction rugby de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Romain Bergogne, Maxime Rollin et Alex Bardot. Retrouvez-nous tous les lundis sur le site L'Équipe ou sur vos applications podcast préférées. À la semaine prochaine.